tout combiné ensemble. En résumé, les taxes sur l'essence sont d'environ 66 % plus élevées au Québec qu'en Floride. Extrêmement, extrêmement taxé ici au Québec, comme comparé aux États-Unis, les autres pays. C'est sûr que si vous allez au Moyen-Orient, je pense que le gaz coûte presque moins cher que de l'eau. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on parle de la fameuse essence d'été. C'est quoi ça de l'essence d'été? C'est quoi la différence entre l'essence d'été et l'essence d'hiver? Aujourd'hui, je vous en parle. Aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est un épisode solo. Alors, vous pouvez vous attendre que il n'y a rien d'arrivé à Eve. Eve est toujours parmi nous, mais on souhaite vous donner plus d'épisodes par semaine. Et Eve n'est pas toujours disponible. Alors, on veut amener la nouvelle plus vite. On veut vous amener plus de vidéos, plus de podcasts plus vite. Alors, avec cette formule-là, on va être capable d'avoir plus de contenu. Mais Eve, elle fait toujours partie de l'équipe. Elle va revenir dans les prochains épisodes à venir. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles. Le gaz a monté d'au moins 20 sous, si ce n'est pas plus. Là, il y en a qui disent que c'est à cause que c'est de l'essence d'été. OK, on va aller en profondeur voir c'est quoi ça de l'essence d'été. On va se le dire, peu importe l'excuse pour monter le gaz, il y a toujours une raison, que ce soit un conflit dans un autre pays, que ce soit l'inflation, que ce soit les taxes, il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis là, on a la fameuse excuse gaz d'été. Si vous êtes comme moi, ça fait plusieurs années que... Tankez votre char. Vous savez, c'est la première fois que vous entendez ça. Puis, regardez, moi, j'ai grandi dans des compagnies avec plusieurs machineries. On se faisait livrer du gaz, du diesel, ces affaires-là. On n'a jamais vu ça, du gaz d'été. Fait qu'on va aller en profondeur voir c'est quoi ça, du gaz d'été. J'ai utilisé l'outil Gemini. Ça, c'est une intelligence artificielle. C'est comme ChatGPT, mais je trouve qu'il fait un bon job. Il a comme plus accès à Internet. Donc, j'ai posé des questions, il m'a répondu beaucoup à mes questions, il répond d'une façon assez correcte, avec beaucoup d'explications. Je pense que ça va nous aider à éclaircir certaines choses, puis à un peu venir effacer un peu ce qu'on a entendu un peu partout, tout croche, selon moi. Les intelligences artificielles, en général, je pourrais dire, de nos jours, sont efficaces, mais ne sont pas efficaces au point que j'aimerais qu'ils soient. Quand je leur pose des questions, des fois, ils me répondent vraiment comme une personnalité 2024, toujours très politiquement correct, toujours axé sur une certaine mode que la politique s'en va. Je trouve que les intelligences artificielles, à mon avis, à moi, sont pas assez neutres, sont pas assez comme vraiment un robot. On voit qu'il y a quelqu'un qui les contrôle, puis ils veulent nous envoyer dans une direction. On le voit souvent quand j'interagis avec eux. Mais c'est un très bon outil. Je le recommande à n'importe qui. Moi-même, parfois, quand je trouve que mon email est un petit peu trop rough ou j'ai besoin qu'il soit adouci, qu'on mette un petit peu d'arc-en-ciel dedans, j'utilise les intelligences artificielles. Alors, j'ai demandé à Gemini, j'ai dit « C'est quoi de l'essence de l'été? » Il me dit « L'essence d'été est un type de carburant conçu pour une utilisation par temps chaud. Elle diffère de l'essence d'hiver par sa composition et ses propriétés notamment. » Là, il m'explique. La température d'évaporation, la pression de vapeur, les additifs, puis la disponibilité. OK. Là, il me dit l'utilisation, le prix, puis toutes ces affaires-là. Là, il me dit le prix de l'essence d'été peut être légèrement plus élevé que celui de l'essence en raison de la composition des additifs spécifiques. En gros, faire un résumé, il me dit que si tu prends du gaz d'été, mais là, ils ont mis plus d'additifs dedans. Puis c'est ça qui coûte plus cher. Puis il s'évapore moins quand il fait chaud. OK, ça fait du sens. Mais si c'est comme moi, c'est comme, il n'y avait pas de gaz d'été avant, puis ça ne montait pas comme ça. Est-ce que, là, j'ai dit à Gemini, premièrement, pourquoi l'essence d'été coûte plus cher? Encore une fois, il me dit, la demande des saisonnières, le raffinage, la composition différente, tout ça. Les taxes et marges. Bon, on va rentrer là-dedans un peu. Il dit les taxes et les marges de profit des détaillants peuvent également contribuer à la différence de prix. Oh! Fait qu'on le voit ici qu'en disant que tu mets un gaz d'été, tu peux te prendre une marge de profit de plus. Gemini l'a dit. C'est comme le bon Dieu. regardez. Après ça, j'y ai demandé la question. Puis qu'est-ce qui est le fun sur Gemini? Je viens de faire un petit peu une parenthèse. Il donne toutes ses sources. Il va dire, mais là, j'ai pris ça sur CA, Québec, puis ci, puis ça. Fait que tu sais, c'est pas dans l'air. Il va chercher plusieurs sources, puis il combine ça tout ensemble. Fait quand même un bon job. Là, j'ai dit, pourquoi j'ai jamais entendu ça parler de ça dans la séance d'été? En gros, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est qu'auparavant, il mettait moins d'additifs que maintenant dans l'essence. Fait qu'ils l'ont peaufiné avec le temps pour que ça soit meilleur. Ils disent que c'est meilleur pour l'auto. Ils disent que l'essence d'été va mieux s'adapter à ton auto. Ça va aider au démarrage, vice-versa avec l'hiver. Moi, à un moment donné, ils poussaient l'essence d'hiver. Ils appellent pas ça l'essence d'hiver, mais ils disaient que quand tu prenais du super, ils avaient rajouté des additifs dedans pour aider en hiver, puis te réchauffer ton moteur. Ça, à un moment donné, je m'en souviens, là, peut-être 10-15 ans, ils poussaient gros ça. Est-ce qu'on peut voir une différence sur les moteurs, je pourrais dire, plus qu'on avance avec la technologie, peut-être. Avec des vieux moteurs, non. Mon avis à moi. Fait que là, c'est ça. Il me dit, ah, ben là, ça dépend de ton lieu de résidence, ton type de véhicule, les habitudes de conduite, blablabla. Regardez. Ils disent que c'est ça. En gros, ils ont rajouté des additifs qu'il n'y avait pas auparavant. C'est pour ça que dans le passé, on entend moins parler de ça, tout ça. Là, je me dis, ouais, tu sais, ça ne répond pas tellement à mes affaires. Tu sais, j'ai dit, ben là, tu sais, il me dit le lieu où tu t'habites, blablabla, ça peut pas, peut-être que ça ne va pas changer. Tu sais, je dis, genre, je vis au Québec. Mais là, il me dit, ah, au Québec, on passe à l'essence d'été, mi-avril, jusqu'à la fin mai. OK. Là, il dit, la différence de prix. La différence de prix de l'essence d'été à l'hiver au Québec est généralement d'environ 5 à 10 cents le litre. Bon, mais c'est pas ça qu'on voit, là. On a vu un bon de 20 cents le litre, je pourrais dire. Fait que là, je pense qu'ils en ont profité pour mettre d'autres affaires là-dedans, là. Des conflits, puis des ci, puis des ça, là. À mon avis, à moi. Après ça, j'ai dit, est-ce que les pays chauds utilisent une version plus avancée de l'essence d'été? Là, il me dit que oui. Il dit qu'en Australie, qu'il y en a des spéciales aux États-Unis, au Moyen-Orient. Moyen-Orient, je trouvais ça intéressant. Il dit dans les pays du Moyen-Orient, l'essence peut être formulée pour résister à des températures très élevées. Fait que ça va moins évaporer, etc. OK. Ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre, qu'il y avait vraiment des types d'essence pour des climats en particulier. OK. Mais là, j'ai dit, OK, ouais, mais je sais pourquoi que dans les pays plus chauds, ben, l'essence est plus abordable en moyenne, on va se le dire. Quand, souvent, quand on va en Moyen-Orient ou on va dans le sud des États-Unis, ça coûte moins cher. Là, c'est sûr et certain, on tombe dans la game des taxes. C'est sûr et certain que là, il me donnait plein d'excuses, il me dit, ah, ben non, c'est pas toujours le cas. Et je, non, moi, où est-ce que je vais rouler? Là, je vais pas dans les pays du tiers-monde me promener. Là, tu sais, chat des. Pas de ChatGPT, mais Gemini, il dérape des fois. C'est pas ça. Donc là, j'ai dit, ah, tu sais, juste pour le fun, comme ça, là, comme ça. Là, il va là, dans le gros. J'ai dit, combien de pourcentage de taxes est appliqué sur l'essence au Québec versus la Floride? Là, il me sort toutes les différentes taxes qu'il y a. Puis, il me dit, c'est environ 30% qui est appliqué au Québec. Puis après ça, il me dit, ah, en Floride, c'est 18%. Puis il dit, en tout cas, avec tout combiné ensemble, en résumé, les taxes sur l'essence sont d'environ 66% plus élevées au Québec qu'en Floride. Extrêmement, extrêmement taxé ici au Québec en comparé des États-Unis des autres, ou d'autres pays. C'est sûr que certains, si vous allez au Moyen-Orient, je pense que le gaz coûte presque moins cher que de l'eau. Regardez, de ce côté-là, je pense qu'il en profite pas mal là, pour en mettre gros. Je pense que les additifs qu'ils mettent dans l'essence est plus bénéfique aux pétrolières qu'aux consommateurs. Je pense qu'il y a plus de chances que l'essence s'évapore dans une grosse tank à gaz ou dans les camions ou quand ils font le transport, etc., que quand vous l'avez mis, puis vous l'utilisez, puis vous l'utilisez en bas d'une semaine. Puis en plus, on va se dire, la part du temps, là, toutes les tanks à gaz sont vraiment scellés sur les nouveaux véhicules. Regardez, je suis là pour vous informer les réponses que j'ai eues avec l'intelligence artificielle. Je pense que là-dedans, ils mettent beaucoup. Ils essaient de trouver des nouvelles excuses, la guerre, le ci, le ça. On ne rentrera pas dans un épisode politique. Je pense qu'il y a beaucoup de manières qu'on pourrait payer de l'essence moins cher en la fabriquant ici au Canada, en utilisant nos ressources, même en utilisant les ressources aux États-Unis, puis arrêter de bloquer des pipelines, puis des ci, puis des ça. Ça serait un résultat pour avoir de l'essence moins cher. Moi, je trouve qu'acheter de l'essence qui vient d'un autre pays ou d'Arabie Saoudite, peu importe où elle vient, ça ne fait pas de sens quand on en a ici. Ça, c'est mon avis à moi. C'est importer quelque chose qu'on a déjà. J'en parle souvent, regardez. Je travaillais souvent à Calgary et Edmonton dans le temps que les sables bitumineux y allaient bien. Tout le monde était florissant. Tout le monde était heureux. Tout le monde avait un job. C'était vraiment une province qui était en santé. Puis quand ils ont tout arrêté de faire ça, c'était désolant à voir. J'ai vu le avant et après. Puis pour les gens qui viennent de l'Alberta, je trouvais ça très plate. Puis pas investir dans notre pays, puis dans nos ressources, puis dans notre monde, puis faire vivre notre monde, puis aller chercher ça dans un autre pays, puis... Ah, les gars, je trouve que ça fait pas de sens de ce côté-là. On continue à parler d'essence. Regardez, beaucoup de gens me demandent quelle essence j'aurais utilisé pour mon véhicule. Ordinaire, médium, super, du 94, ça va dépendre de votre véhicule. En général, je pourrais dire, si vous avez vraiment un véhicule qui est plus âgé, vraiment avec un moteur très simple, je pourrais dire qui n'utilise pas un turbo, un supercharge, ces choses-là, ou injection directe, le gaz ordinaire va faire l'affaire. En moyenne, si vous avez un moteur qui est plus moderne, avec un turbo, un supercharge, avec une injection directe, les cams variables, etc., c'est toujours mieux d'y aller avec un octane plus élevé. Les moteurs peuvent s'adapter. Il y a des sensors qui vont détecter le nombre d'octane qu'il y a qui va passer vraiment. Si le modèle il demande d'avoir du 91, du super, c'est sûr et certain qu'il faut mettre du super. Si on met du gaz ordinaire, je pourrais dire. Là, ça va venir vraiment endommager votre véhicule. Ça, il faut faire vraiment attention à ça. Il y a certains véhicules qui vont être recommandés. Fait que c'est sûr et certain que quand c'est recommandé, c'est toujours mieux d'en mettre du super. Mais si vous êtes mal pris, vous pouvez mettre du ordinaire. Le véhicule va s'adapter. Il y a d'autres véhicules, des fois. Lui, il n'est pas marqué recommandé ou obligé. Il va juste être marqué rien, littéralement. Ça, c'est quand vous ouvrez votre portière pour mettre votre essence, la petite porte. Il y a certains moteurs, surtout quand on tombe, mettons, dans des camions avec des moteurs EcoBoost ou les nouveaux Ram qu'on a avec les Hurricane, c'est des moteurs qui, encore une fois, qui sont turbo, injection directe, cam variable. C'est des moteurs que, quand ils vont tester les performances, l'économie d'essence, les performances aussi quand ils remorquent, ça va être toujours avec du super. Fait que si vous voulez avoir le maximum de performance de votre moteur, ça va prendre du super. C'est ça qu'on recommandait souvent aux gens qui avaient des troubles ou qui n'avaient pas tout à fait les performances voulues. Puis souvent, ça réglait les problèmes. N'oubliez pas aussi que c'est pas en mettant un demi-tank ou juste une tank que ça va faire un miracle. C'est des fois, ça va prendre un cycle complet pour que votre véhicule s'adapte à le nouveau taux d'octane que vous allez utiliser. Fait que des fois, ça peut prendre plus que un plein pour que le véhicule soit à son plein potentiel, je pourrais dire. Puis d'un autre côté, si on regarde le diesel, mais là, il n'y a pas 10 000 choix. Mais auparavant, je vous rappelle qu'il y a eu un moment donné qu'on a fait une transition côté diesel. Puis c'est là que ça a augmenté le prix du diesel. C'est quand on a passé du diesel low sulfur à du diesel ultra low sulfur. Fait que ça, c'est avec la nouvelle génération des diesels, ça a dû changer. Ça s'est commencé environ en 2010. C'est là qu'on avait introduit chez Ford les nouveaux 6.7 Power Stroke. C'était important que les gens, on leur disait de mettre du ultra low sulfur. Puis c'était un problème des fois qu'ils pouvaient rentrer face à face, je pourrais dire, quand ils voyagent au Mexique. Maintenant, au Canada puis aux États-Unis, c'est tous du ultra low sulfur depuis plusieurs années. Mais si on remonte, mettons, presque 14 ans en arrière, c'était pas le cas partout aux États-Unis. Puis ça l'était, ça commençait à l'être presque partout au Canada. Fait qu'il fallait faire attention de ce côté-là. Pourquoi que le diesel est aussi cher que ça? Je trouve que ça aussi, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas posé à Gemini, mais on va se dire, raffiner un gaz diesel à comparer d'une essence qui est une essence normale à gaz, ça prend moins de raffinement. Je trouve que il manque d'explications de ce côté-là. Il faudrait prendre, parler avec des spécialistes. Mais tu sais, des fois, quand on demande à des spécialistes, c'est tellement des entreprises qui ont des monopoles puis qui s'arrangent tout ensemble. C'est souvent un petit peu, je pourrais dire, de la bullshit. Puis c'est pour contrôler tout le marché. C'est sûr et certain, si le prix de l'essence monte, mais tout monte alentour de ça. Fait que tu sais, ça vient un peu relatif. Fait que tu sais, peut-être si on serait moins taxé sur l'essence, mais tout coûterait moins cher. Tout aurait un certain un effet domino sur ça. Je trouve ça de valeur un petit peu. Tu sais, moi qui ai déjà vécu en Floride, c'est des choses que tu sais, on le voit au quotidien, tout coûtait moins cher. Tu sais, c'était l'essence qu'on allait à l'épicerie, qu'on allait partout. Ça coûtait vraiment moins cher en général, tout ça, juste à cause de l'essence. Fait que ça a un gros impact, je trouve, sur toute la communauté en général. Puis, je trouve ça de valeur qu'ici, on est tellement. Au Canada, on a tellement de ressources, tout ça, qu'on est hyper taxé comme si on n'arrivait à rien. Puis on vient pas justement prendre ces ressources-là puis faire un profit pour justement descendre un peu le coût de la vie de tout le monde. Tu sais, je prends un exemple un peu sur, je pense que c'est en Alaska. En Alaska, il y en a du pétrole. Puis tous les habitants d'Alaska ont une dividende de la vente de pétrole à chaque année. C'est vraiment, tu sais, ça, on trouvera jamais ça ici, là. Oui, c'est sûrement un des aspects pour attirer les gens à vivre en Alaska, mais je fais juste dire, c'est des trucs qu'on voit d'ailleurs, mais tu sais, ça l'affecte vraiment tout, tu sais. Puis même là, les gens qui travaillent ces choses-là, se rendent à ton travail, ça va coûter moins cher, c'est à un moment donné... Tes employés ils disent, ben là, moi, je veux une augmentation parce que là, ça me coûte tant en transport, tout ça. C'est tout relatif à ça. Puis, tu sais, je sais que pour monsieur tout le monde, tu sais, ça vient très choquant. Puis, on dirait que plus qu'on avance, plus que, même si on essaie d'avoir des alternatives comme l'électrique, les hybrides, ces choses-là, on vient toujours dans une espèce de cercle vicieux. Il y a toujours un prix à payer en bout de ligne. Que ça soit... un coût de l'essence, que ça soit un coût sur la performance ou ça peut être aussi sur votre temps, tout dépendant qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Mais tu sais, c'est sûr et certain que côté pratique, mais souvent, être à l'essence, c'est plus pratique qu'à l'électrique. L'électrique, des fois, oui, on peut vraiment faire une économie, mais l'économie vient avec un certain coût de votre temps. Le temps, n'est souvent pas compté pour ces gens-là. Puis d'autres personnes, des fois, qui ont à l'essence... Bien, le temps est plus important. Fait que ça vient tout un peu se balancer en bout de ligne. C'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de sens-ci des gens qui ils se virent de plus en plus vers les hybrides branchables, que quand ils font des petits parcours, bien là, ils peuvent économiser vraiment sur l'essence. Puis quand ils veulent aller plus loin, ils sont pas mal pris, ils sont pas obligés de charger ou vraiment calculer toute leur recharge. Puis je pense que c'est pour ça présentement que la plupart des usines qui allaient sortir, des compagnies de batteries, bien là, c'est retardé ou annulé complètement. Plusieurs modèles sont pas cancellés, mais reportés. Ils reviennent sûrement avec des hybrides. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que la technologie d'hybride n'a pas été poussée à 100%. Mais elle doit être appliquée à la bonne endroit. Puis ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine clientèle pour ça. C'est pas pour monsieur tout le monde. Je prends un exemple vite fait. La nouvelle Mercedes-Benz classe C, la C63 MG, au lieu d'avoir son fameux V8 qu'elle avait dans le passé, maintenant, ils ont utilisé un moteur hybride qui développe peut-être même plus de chevaux que le V8 que dans le temps. Mais ce modèle-là, ils ont tellement de difficultés à le vendre présentement. Je pense qu'il a été cancellé pour le Canada puis qu'il est extrêmement rare. Il est juste sur commande aux États-Unis. Les gens n'en veulent pas. À un moment donné, c'est beau que donner un beau VUS pratique, bien fait, abordable, avec un hybride pour une petite famille qui veut économiser, c'est beau. Des gens qui sont prêts à débourser des 100 000, des 150 000, peut-être plus que ça, là. J'ai pas vu le prix des dernières C63 MG au Canada. Mais, ils sont plus disponibles. Ces gens-là, ils veulent avoir du fun, ils veulent avoir de la performance, puis ils sortaient des V8, ces choses-là. Ils s'en foutent un peu d'avoir tant d'HP, puis que ça fait ci, puis ça fait ça. Ils voulaient une expérience, puis quand on paye le gros prix, c'est ça qu'ils veulent. Puis là, ils se retrouvent avec une espèce de truc qui serait quasiment mieux avec un auto 100% électrique ou venir avec un vieux modèle. Fait que des fois, c'est juste que... Il faut qu'ils adaptent les bons produits à la bonne place pour les bons clients. Puis même là, à Oakville, dernièrement, ils ont cancellé. Ils étaient supposés avoir un camion, je pense trois rangées, une espèce de Kia EV9 qui allait être supposé être construit aussi au Canada, à Oakville. Oakville, c'est là qu'ils faisaient le Ford Edge. Puis là, tout a été repoussé de 2 ans. Je ne sais pas s'ils vont faire un autre modèle en attendant. Je ne sais pas s'ils arrêtent l'usine pendant 2 ans, mais tout a été repoussé. Pour l'instant. Je pense qu'il y a des compagnies que, exemple, Ford, GM, ils étaient très bons pour faire des hybrides. Toyota est très bon pour faire des hybrides aussi. Je pense que d'autres compagnies que d'autres, ils vont juste aller de l'avant avec l'électrique. Je pense que chez Kia, Hyundai, Genesis, ça va être de l'électrique à 100% parce qu'eux autres, ils ont mis tous leurs œufs dans ce panier-là. Présentement, aux États-Unis, il y a une grosse vague qui revient vers les modèles hybrides. Fait que tout ça vient un peu avec les prix de l'essence, tout ça, les taxes, les conflits mondiaux. Pis, c'est tellement tout qui vient un peu tout se mettre un sur l'autre. Puis finalement, quelque chose qu'on parle souvent ici au podcast, les règlements d'émissions qui sont de plus en plus stricts. Je pense que faut pas virer fou avec ça. Il va falloir que les gens aient quand même un choix là-dedans. Puis je pense que qu'est-ce qui serait le fun, c'est qu'on ait encore plus de choix qu'auparavant. Mettre des gens en place que peut-être qu'ils pousseraient pas juste un agenda, mais plusieurs choix. Que les gens peuvent rester à essence, peuvent être à hybride, peuvent être diesel, peuvent être électrique, peuvent être au propane, au gaz naturel, peu importe. Je pense que si on aurait vraiment une panoplie de choix, ben là, on pourrait peut-être avoir un certain contrôle plus facile sur le marché. Parce que là, mettons que, je vous donne un exemple, le diesel vient trop cher, mais là, il y a peut-être plein de monde qui servirait vers le propane ou le gaz naturel, surtout les commerces. L'électricité, à un moment donné, mettons, elle vient trop chère, mais là, on va plus l'hybride. Tu sais, ça viendrait jouer plus en balance comme ça pour donner des alternatives. Le diesel ici, ça, on se vire d'un bord ou de l'autre. Quand on a plusieurs options, on n'est pas enchaîné, on n'est pas enfermé de faire juste « mais là, j'ai pas le choix d'aller mettre du gaz, j'ai pas le choix de brancher mon auto à tel tarif. » Je pense que ça serait... une meilleure solution. Puis j'ai entendu aussi des experts qui disaient que si on aurait continué dans l'essence, puis on aurait peaufiné aussi l'essence, on aurait pu avoir une nouvelle génération de moteurs qui aurait pu utiliser une essence encore plus propre, encore plus performant. On aurait pu avoir encore plus de performance avec des... Ils disaient qu'on aurait pu faire des essences avec des très hauts niveaux d'octane. Puis avoir des petits moteurs qui viennent performer puis qui soient légers, c'est un tout ça, là. Le poids des véhicules, tout ça. Il y a plein de choses qui sont reliées à ça. Plus que nos voitures sont lourdes, quand on vire électrique, ben là, ils utilisent plus les pneus, ils usent plus les routes. etc., etc. Fait que, tu sais, il y a eu d'autres solutions que je pense que, à cause que la tendance globale n'allait pas par là, mais là, ils ont décidé d'aller d'un autre côté, puis ils n'ont pas eu le choix. Puis je sais qu'à un moment donné, Volkswagen, avant le Dieselgate, travaillait très fort sur des modèles hybrides diesel qui performaient, puis qui consommaient presque rien. Puis ils peaufinaient vraiment cette technologie-là, la technologie diesel hybride. Puis avec le Dieselgate, ça a venu tout gâcher. Puis là, présentement, on va se dire, Volkswagen ne font pas des super produits électriques, mon avis à moi. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la fameuse essence d'été? Est-ce que vous avez une conspiration à partager avec moi? Dites-moi là, d'un content. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On se revoit dans un prochain podcast.